Fermé pour là-bas si j'y suis.
La nuit, quand revient la nuit, je vais voir là-bas si j'y suis. Oh!
Moi, je suis ravi aussi, hein, avec tous les autres, de la rediffusion de ces émissions sur les années 80, parce que quand le bouquin de Cusset est sorti, je me disais, enfin, ça y est, tout le monde va comprendre. Et puis, je trouve que c'est pas tout à fait le cas, enfin pas encore, mais ce bouquin, je pense qu'il va continuer de faire des vagues pendant encore longtemps, et tant mieux, autant que ça serve de leçon, hein, un bouquin pareil, justement, et qu'on puisse se dire maintenant, bon, je vois un peu ce qui se profile à l'horizon, maintenant, on ne m'aura plus, et on ne me mènera plus en bateau avec n'importe quoi, et ben, ça pourrait très bien s'appliquer, par exemple, à la candidature Hollande.
Bonjour, Jérôme, de Valenciennes. J'écoute avec beaucoup d'intérêt cette série d'émissions sur les années 80. Petit témoignage, en 85, moi j'avais 22 berges, j'étais commercial, c'était mon premier job, je suis rentré comme commercial dans mon mobilier de bureau à Tourcoing. Je gagnais 350 000 francs par an. C'était le bonheur, je ne le savais pas. Et puis je suis parti, j'ai démissionné 2 ans et demi après, parce que mes copains qui étaient chez Rank Xerox, ils gagnaient 100 000 balles par mois. Et puis aujourd'hui, bah, j'ai 48 ans, je suis directeur commercial d'une PME, et je gagne 35 000 euros par an. Mais je m'éclate dans ce que je fais, c'est le bonheur. Salut à tous, bye bye.
Putain, ça fait chialer votre émission. Ouais, il y a de la nostalgie, mais surtout de la colère. Une grosse colère vieille de 30 ans. J'ai mis mon mouchoir dessus, avec la désagréable impression de me faire baiser la gueule. J'ai renoncé publiquement à utiliser des mots devenus vulgaires, trop peuple, pas moderne, réac même, comme lutte des classes, syndicat, riche et pauvre. Aujourd'hui, cette réalité redevient visible et elle nous revient en pleine gueule, malgré tous les efforts des médias pour nous dire le contraire. Je pleure sur les cons et sur ceux qui ont failli, qui n'ont pas eu la force de résister. J'en fais partie. Mais bon Dieu, ça fait du bien de dire des gros mots populaux à l'antenne. C'est Noël de Nantes.
Ah, merci à là-bas pour la série d'émissions de la semaine, qui tombe à pic vraiment. D'abord, des dizaines de milliers d'entre nous avaient d'autres chats fouettés à l'époque. Mais surtout, grâce à là-bas, je crois enfin en la réincarnation. Ces trois intellectuels, guillemets inclus, qui étaient déjà là il y a 26 ans, le sont encore aujourd'hui. L'un qui fut récemment un état-major à lui tout seul, un autre dont j'ai vu 5 ouvrages, entre guillemets aussi, simultanément en librairie il y a à peu près 2 ans, et que j'ai entendu quelques secondes affreuses en duo avec le troisième. Mais où était-il un quart de siècle avant les années 80? C'est clair. Croquignol, Filochard et Ribouledingue, les pieds-nique les chéris de nos enfances.
Bonjour. Vous êtes en train de parler des années 80, mais moi je voudrais qu'on m'explique comment il se peut que du temps de la présidence de Pompidou, qui n'était pas pourtant un affreux révolutionnaire, le taux supérieur de l'impôt sur le revenu était à 65%, quand il est arrivé en 2010 à 40%. Et pourquoi la gauche au pouvoir n'a jamais rectifié le tir ?
Bonjour, je viens d'entendre que de faire tourner la planche à billets pour essayer de résoudre le problème de la dette, c'est ce qui avait entraîné pour partie la montée du fascisme en Allemagne. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier non plus, et je pense qu'il est le facteur essentiel de cette montée, c'est la pression énorme qu'ont mis la France en particulier et les autres pays sur l'Allemagne, qui l'y ont donc obligé à rembourser une dette de guerre quasi extravagante, qui a donc mis le peuple allemand dans une misère telle qu'il n'avait que d'autres idées que de suivre les idées les plus courtes et de suivre donc l'esprit revanchard et l'esprit indépendant et l'esprit dominateur d'Hitler. Donc quand on pressure un peuple et qu'on le renie en le mettant dans des conditions économiques difficiles, on arrive rarement à de très bons résultats socio-économiques qu'on devrait, je pense, en tenir bien compte en ce moment chez les Grecs, chez les Espagnols et peut-être aussi chez nous. Au revoir.
Merci pour tous ces messages, chers AMG, messages qui me parviennent ici à Athènes. Et je vais vous raconter une jolie histoire dont nous ne sommes pas peu fiers. Hier, nous étions avec Harris. Harris, c'est le co-réalisateur d'un film que je vous conseille de regarder et de re-regarder, qui s'intitule Deptocratie. Deptocratie. Harris et Katrina sont les réalisateurs de ce film. Et on était en train de discuter amicalement et on parlait de l'engagement, de la soumission. Et Harris dit « Ah, il y a un philosophe grec qui s'appelle Thucydide et qui a dit ceci, il faut choisir être libre ou rester calme. » « Ah, très beau, lui dis-je. Et lui, où est-ce que tu as entendu ça ?»« Oh, j'ai noté ça en écoutant une émission à la radio quand j'étais en France. » Et c'était une interview avec Cornelius Castoriadis. Et voilà, vous avez compris, c'était là-bas si j'y suis. Notre ami Harris était tombé sur là-bas si j'y suis. Ce fameux entretien avec Cornelius Castoriadis qui, comme vous le savez, était d'origine grecque et qui, effectivement, au cours de l'émission, cite la phrase fameuse « Il faut choisir être libre ou se reposer, ou être libre ou être calme ». C'est ainsi que les Grecs citent leurs vieux philosophes d'autrefois à travers des émissions françaises. Et on n'est pas peu fiers de ça et aussi du parcours, la façon dont se diffusent les idées, le temps qu'elles mettent à vivre et à arriver dans les esprits. Regardez Deptocratie de Harris et Katrina. Aujourd'hui, dans la basse, si j'y suis, on continue avec les années 80, la décennie des années 80. Le livre de François Cusset nous avait donné la matière pour une suite d'émissions sur ces années 80, le cauchemar des années 80. Serge Halimi et Frédéric Lordon donnent un coup de main à François Cusset pour vous faire comprendre tout ça. Et là, ça vous plaît beaucoup, on a beaucoup de réactions, et c'est parfait parce qu'évidemment, il y a un lien entre cette décennie, le cauchemar des années 80, et ce que nous vivons, au moins ici, pour l'instant, en Grèce. On peut vraiment parler de cauchemar, et il se peut bien que ce cauchemar soit en train de se répandre dans une partie du monde dont nous autres, Français, faisons partie. Le triomphe des idées qui ont fait faillite. C'est aujourd'hui dans la basse, si j'y suis. Auparavant, encore d'autres messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Bonjour à toutes et à tous. À l'appel du Café Repère de Tours, un rassemblement aura lieu le lundi 28 novembre à 14h30 au centre administratif Jean Giraud, en soutien à un membre du Café Repère, facteur de son état, suite à sa convocation devant le Conseil de discipline de la Poste en vue d'un licenciement. Ceci n'est pas un cas isolé. En effet, la direction de la Poste continue son écrémage dans les rangs syndicaux, usant d'une violence sociale et cynique à l'encontre de son personnel. Et effectivement, il devient impossible de revendiquer ses droits et de rester debout face à une politique managériale visant à faire taire toute contestation et contestataire. Donc rendez-vous ce lundi 28 novembre à 14h30 au 10 rue Féline à Tours pour soutenir un salarié syndiqué en lutte contre un système répressif et méprisant de la part de son direction. Solidarité, à bon attendeur. Salut, c'était Alain de Tours.
Salut Daniel, salut toute l'équipe. Un petit message des indignés nantais qui sont installés depuis le 11 novembre 2011, donc sur l'espace public, d'abord place du peuple, donc place royale, et qui depuis ont ouvert une agora, place Alexis Ricordeau face au skatepark à Nantes, donc toujours, arrêt Hôtel Dieu des lignes 2, 3 et 56. Donc que no nos representan. Ils ne nous représentent pas. Nous révoquons notre dépôt de souveraineté populaire entre les mains de la classe dirigeante, mue par d'autres intérêts que le bien commun et l'intérêt général. Tous les jours, il y a des assemblées populaires à 13h et à 19h auxquelles nous convions naturellement nos concitoyens. On a des Parisiens qui sont arrivés depuis deux jours et qui voilà, dynamisent bien notre petit campement, qui commence à avoir de plus en plus de gueule. Donc voilà, si vous voulez venir voir de jolies cabanes faites sans argent et sans, sans matériel professionnel, c'est le moment. De ces assemblées qui se tiennent donc tous les jours est venue l'initiative d'un marché de troc dimanche prochain, donc le 27, avec un rendez-vous à partir de 11h, un pique-nique solidaire. L'idée de ce marché de troc, c'est qu'on va mettre en pratique le droit d'usage, donc les choses n'ont de valeur que l'utilité qu'on a d'elles. Donc on va parler droit d'usage contre droit de propriété et on va parler gratuité aussi. On va parler création monétaire, on va parler création de la dette et alternative au capitalisme avec le collectif Libérons la Monnaie. Donc on invite tout le monde, y compris les personnes qui viennent d'un petit peu autour, Anjou, Bretagne, etc., à venir participer à cet événement pour réussir à construire une nouvelle société. Une bonne journée à tous, c'était Sarah de Nantes. Merci beaucoup pour votre attention. Salut.
Oui, bonjour Daniel. Un appel des indignés de l'agriculture pour la souveraineté alimentaire à Paris, lundi 28 novembre à 16h30 devant l'Assemblée nationale, juste avant le passage d'une proposition de loi qui va être débattue en urgence, en catimini par les députés, sur le projet de taxer les paysans sur leur droit de semer leurs semences. C'est un véritable bond en arrière pour les agriculteurs avec l'instauration d'une taxe au profit des semenciers. Donc ça concerne l'ensemble des consommateurs parce que des paysans sous dépendance, ça veut dire une assiette sous dépendance et sous contrôle. Donc réagissons, soyons nombreux à Paris, lundi 28 novembre, devant l'Assemblée nationale. On ne lâche rien. C'est Christian, paysan du Lot-et-Garonne.
Bonjour Daniel, bonjour tout le monde. J'habite à Cuers dans le Var, une jolie petite ville, un village de 10 000 habitants. Et nous n'avons plus de presse à la fermer depuis 2 mois, il n'y a pas de repreneur. Donc je lance un appel pour que quelqu'un vienne reprendre la presse du village. Comme dirait la mère d'un ami, c'est comme si on n'avait plus de boulangerie. Merci à tous.
Bonjour Daniel, bonjour les auditeurs modestes et géniaux. C'est la compagnie Jolie Môme. Après la belle nuit des rapaces organisée par Fakir, voici de nouveaux spectacles. On reprend « Faut pas payer ». Dario Fo a écrit cette comédie sur la crise dans les années 70, en Italie. Et nous la jouons en 2011 à Saint-Denis. Il serait donc déplacé, voire insolent, de faire quelques rapprochements que ce soit. Et dans le même temps, on fête la sortie de notre nouvel album de chansons. Là encore, on chante parfois la crise, mais on parle surtout de rébellion. Parole de Mutin. Toutes les infos sont sur le site internet de la compagnie Jolie Môme. Alors, à bientôt dans notre théâtre. La belle étoile.
Avec votre DJ à la sono, écoutez le show musical. Yeah!
Attention, 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 c'est à vous. Super.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis avec Renaud Lambert. Années 80, retour en arrière.
Flight number 2, arriving from...
La politique engagée depuis le mois de mai 1981 est-elle bonne pour la France? En dépit des difficultés, nous avons progressé sur ce chemin ardu. Réaliser en peu de mois plus de réformes, plus d'avancées sociales que la France n'en avait connues durant un demi-siècle. Mais maintenant, nous avons plus que jamais à vaincre sur 3 fronts. Le chômage, l'inflation, le commerce extérieur. La limitation de la croissance...
Ça avait pourtant bien commencé et puis l'on déchanta. Le tournant de la rigueur était inexorable. La seule politique possible était inéluctable. Vous vous souvenez ? Si vous ne vous souvenez pas des années 80, les années 80 se rappellent à vous chaque jour encore les mêmes acteurs, encore le même décor, ou presque. Presque, car depuis, il y a eu quelques contre-feux. On en est un peu revenu, mais dans quelle mesure est-il utile aujourd'hui de revenir sur ces années? Quels grains à moudre peuvent-elles fournir? Vous le saurez d'ici à 16h, grâce aux 3 éclaireurs du peuple que nous avons réunis pour vous. François Cusset, auteur de « La décennie ». Le cauchemar des années 80, Serge Halimi, auteur de « Quand la gauche essayait » et « Le grand bond en arrière » et Frédéric Lordon, « Quand la vérité éclaire le monde ». Jack Lang, ce sera une autre fois.
«
Alors, ce qui a marqué ces années 80, c'est Bernard Tapie, on le répétera jamais assez, et notamment Bernard Tapie, producteur d'émissions de télévision, notamment d'une série qui s'appellera Ambition. En 1999, Tapie revient sur ses années et sur ses émissions, donc Ambition de 1986.
On parle un peu télévision, Bernard Tapie. Le mot ambition vous dit quelque chose?
Ah oui, oui.
C'était une émission.
C'était formidable. C'était encore une commande, parce qu'à l'époque, on disait que la France n'aimait pas les entrepreneurs, ni n'aimait pas les entreprises. Ouais. Ça a beaucoup changé. Hein. Maintenant que la gauche est durablement au pouvoir, les Français aiment les chefs d'entreprise qui gagnent beaucoup d'argent. Et avant, ils n'aimaient pas. Mmh. Bon. Et on a cherché à faire des émissions qui abordent le problème de l'économie d'une manière ludique.
Rappelez-vous.
Je crois que la vraie seule victoire, c'est la victoire que l'on obtient sur soi-même, c'est-à-dire celle qui vous donne envie d'aller au bout de vos compétences personnelles. Et ces compétences personnelles, il faut les mettre au profit de la collectivité, car finalement, performant ou non, tout le monde a le droit au bonheur.
On est en quelle année là?
C'est en 86.
Et alors, ça a apporté des fruits?
Vous savez, je crois que essayer de suggérer des choses qui sont gratifiantes, qui sont génératrices de plaisir, d'envie, etc. C'est à la fois dangereux, parce que ça peut donner le sentiment que c'est facile à faire, que c'est à la portée de tout le monde, et donc on crée des déçus, parce que c'est pas facile à faire. Mais n'empêche que c'est par ces caricatures un peu excessives qu'on arrive aussi à susciter des envies et des vocations.
Voilà, Nanar, une fois de plus, des commentaires.
Ah, Nanar,
vous n'êtes pas obligé de faire des commentaires tout le temps, vous pouvez tout
non,
aussi
non, vrai,
faire avoir un silence consterné à la radio, ça peut tout à fait être un commentaire.
Ben, je crois qu'on l'a entendu, là. Le silence est épais, quoi. Il crie même. Non, ça se passe presque de commentaires, mais faut rappeler ce que c'est Ambition quand même.
François Cussé.
Donc le principe de l'émission Ambition, c'est que le candidat invité a la soirée, enfin je crois que ça dure 2 heures, pour créer une entreprise en direct à la télévision. Donc il passe des coups de fil, il cherche de l'argent, des investisseurs, il se fait un peu embêté par Tapie qui lui pose les bonnes questions, mais est-ce que votre idée va tenir la route? Donc, c'est ça qui est intéressant finalement, c'est le côté un peu gladiateur, c'est-à-dire que c'est pas seulement le discours de l'entreprise, c'est l'idée que ça va se passer en direct, que soit on y laisse sa peau, parce que le pauvre type qui rate, effectivement en direct, qui se plante, il est fini, il faut qu'il fasse autre chose, soit on sort vainqueur.
On crée sa boîte en 2 heures.
En 2 heures, on amène son concept, on a 2 heures pour créer sa boîte avec recruter les conseillers, les employés, trouver les investisseurs. Donc c'est plutôt ça, c'est plutôt le devenir entièrement ludique et entièrement médiatique du discours de l'entreprise, plutôt que simplement ce discours de l'entreprise. Bon, plus les propos de Tapie, enfin bon là c'est presque de la poésie quoi, c'est-à-dire aller au bout de ses ambitions, plaisir,
bonheur,
envie,
bonheur, très important le bonheur. Le plaisir c'est bien, mais le bonheur c'est bien aussi.
Mais alors moi je recommande quand même une lecture saine, c'est de lire le best-seller de Tapie en 86, Gagné.
Bernard Tapie, chef d'entreprise, président du groupe Tapie, et puis aussi animateur d'émissions sur TF1. Bref, votre livre paraît cette semaine chez Robert Laffont sous le titre tout simple, Gagné.
Je crois que la vraie relation sociale, c'est lorsqu'un homme passe 8 heures par jour de son temps d'éveil dans une entreprise. On essaie de dégager dans l'entreprise une culture, une musique, une idéologie, un mythe, pourquoi pas, qui fasse que la personne en question est fière d'être et d'appartenir à la compagnie dans laquelle il travaille. Il n'y a pas de patron qui font une entreprise sans personnel. Mais le problème, c'est de se poser, en termes rationnels et sans polémique, est-ce qu'une entreprise peut vivre sans un type qui dirige? Voilà. La réponse est non.
Derrière le discours effectivement du plaisir, de l'envie, de la vocation et de la jeunesse, ce discours un peu démagogique de l'entreprise, il y a en fait une logique que j'hésiterais pas à qualifier de péténiste. C'est-à-dire qu'il y a un principe du chef, le chef que lui est, puisque c'est lui l'élu, c'est lui le héros, enfin en tout cas les quelques rares qui ont la force ou les couilles, comme dirait Tapie, de devenir chef d'entreprise. Et puis il y a le reste, c'est-à-dire ceux qui ont besoin d'un chef. Et Gagné, c'est que ça. C'est l'idée que le monde est divisé entre ceux qui ont la vocation naturelle du chef et ceux qu'on rencontre et dont on voit bien que ça leur ferait bien plaisir d'être dominé par un chef charismatique. Je suis désolé, ce discours-là, il me semble plus politique qu'économique.
Au début des années 80, il rachète l'OM. Il n'a pas de problème et la coupe est européenne. Il fait des affaires, mais à force d'en faire, il y a l'affaire qui va le mener en enfer. OM Valenciennes, ce n'est pas la plus ancienne. Les affaires s'enchaînent avec beaucoup de haine. D'abord c'est le football, puis pourquoi pas son bateau. La série s'enchaîne avec les meubles qui tombent à l'eau. Le cri des Lyonnais, la levée d'immunité. Tout est mis en œuvre pour le faire tomber. La mairie de Marseille n'est pas encore touchée. Mais on ne sait jamais, car Tapi danse avec les milliards.
Tapi dans le nom du fric, pourquoi on est des milliards.
Il danse avec les milliards. Avec les milliards.
Les affaires, nous, on n'en veut pas, mais on veut des milliards.
Qui danse avec les milliards.
Et Tapi donne le nom du fric, pourquoi on est des milliards.
Qui danse avec les milliards. Tout s'achète et tout se vend. Quand on est dans les affaires, on n'a pas de sentiments. Tout se paye à grands coups d'opé, ah, et même les chaussures
avec les trois bandes.
Mais le juge Béfis se méfie, il le défie. Venez me voir, on va causer cet après-midi. Vous avez triché, vous êtes pigé, jugé et maintenant craché. Il vous faut avouer. Voilà comment tout s'aggravait. En un quart d'heure, le joueur appliquait.
J'ai trouvé 250 000 balles
dans mon jardin, c'était ce matin.
J'ai un jardin extraordinaire.
Il a des qualités, des copains dans tous les coins. Il s'est déménagé
avec son beau frère
et m'a vu en service
à sa belle mère.
Mais c'est le meilleur quand Tapi danse avec les milliards.
Et Tapi donne le nom du fric, pourquoi on est des milliards.
Il danse avec les milliards.
Le football, nous, on n'en veut pas, mais on veut des milliards.
Il danse avec les milliards.
Les affaires, nous, on n'en veut pas, mais on veut des milliards.
Il danse avec les milliards.
Et Tapi donne le nom du fric, pourquoi on est des milliards.
Il danse avec les milliards.
Mesdames et messieurs, bonsoir.
Bonsoir. Nous allons rester un peu plus d'une heure ensemble ce soir, une heure pendant laquelle nous allons parler d'argent. De l'argent qui vous manque, de celui que vous placez aussi et qui, grâce à la bourse, deviendra l'argent des entreprises avant de vous revenir ensuite. C'est important, l'argent. Et c'est pourquoi l'économie de la France, sa richesse et son avenir, eh bien, c'est vous.
Parlons d'argent, de votre argent.
Vous connaissez Pierre-Marie Thiaville, dont vous appréciez les conseils pratiques. Eh bien, désormais, il viendra chaque mois vous aider à mieux défendre votre argent contre ses ennemis.
Voilà, c'est pas les Monty Python, c'est une vraie émission qui a vraiment existé. C'était le 26 septembre 1985 et ça s'appelait « Action, c'est important l'argent », nous dit François-Henri de Virieux, et défendre votre argent contre ses ennemis. Frédéric Lordon, c'est lui ?
Bien sûr, c'est convaincu à bloc. Ce qui est très intéressant, c'est que le néolibéralisme a bien compris que son combat se gagnait dans les structures économiques, qu'on réforme plus ou moins brutalement, mais surtout qu'il se gagnait aussi par des luttes symboliques. C'est-à-dire le néolibéralisme l'aura totalement emporté quand il aura triomphé dans les esprits. Et c'est la raison pour laquelle il est véhiculé par toute une série d'entreprises pédagogiques comme celle dont on vient d'écouter l'archive. Et ça passe par une multiplicité de canaux qui est tout à fait impressionnante. Les écoles de commerce, évidemment, ça c'est la plus simple, c'est-à-dire former les jeunes esprits malléables. Moi, je me souviens que j'étais à cette époque dans une école d'ingénieurs et déjà, la pédagogie commençait à s'infléchir considérablement pour... puisqu'il s'agissait, bien sûr, de former les cadres dirigeants de demain, comme l'a très bien dit le monsieur là qu'on vient d'entendre. Il s'agissait d'infléchir la pédagogie pour une prise en compte toujours plus importante de la gestion, les contraintes de l'économie, etc. Et à cette époque même, à l'école des ponts où je suivais paisiblement ma scolarité, venait de se créer un cycle particulier qui était l'équivalent d'un MBA, c'est-à-dire d'un Master in Business Administration, c'est-à-dire une espèce de business school, de petite business school à l'intérieur de l'école d'ingénieurs. Deuxième filière pédagogique, il y a eu tout le mouvement qu'on a appelé des clubs d'investissement dans les années 80, mais ça fait florès, c'est-à-dire des gens tout à fait ordinaires qui se regroupent pour discuter le coût boursier, bien sûr, entre eux, et chacun de gérer à la petite semaine son petit portefeuille, et c'est à qui fera le mieux. Donc là aussi, c'est par des voies comme ça tout à fait capillaires hein, que s'insinue très profondément dans le tissu social cette culture de l'argent, évidemment détabouisée, comme disent avant Nicolas Sarkozy tous ces gens-là, puisqu'il faut en finir avec les tabous. Donc c'est vraiment... la pédagogie néolibérale et boursière ont vraiment de très beaux jours devant eux. Et on aurait tort de le prendre à la rigolade, c'est un ennemi très très dangereux.
trois écoles de commerce vont concourir pour le titre de meilleur investisseur en bourse. Alors, notre spécialiste financier, Jean Lebert, a conçu avec la compagnie des agents de change, qui est représenté ici par son syndic, M. Xavier Dupont. Bonsoir, M. Dupont. Bonsoir, un Serge. Véritable championnat de France des investisseurs. M. Dupont.
C'est, je crois que aider des jeunes filles et des jeunes gens à, qui seront les décideurs de demain, à mieux connaître la bourse et ses mécanismes, je crois que c'est un très bon investissement.
Choisi le film américain de Humphrey Bogart, le costume trois pièces, les surgelés, le grand voyage au bout du monde et Michael Jackson, vous appartenez à la famille Action.
Et Action dans votre jargon, ça veut dire quoi?
Un slogan peut-être. Réussir dans la vie en période de crise par les technologies modernes et la compétition économique.
Bien, alors deuxième type de choix maintenant.
Si vous avez préféré le film de Godard, les vêtements punk, la cuisine exotique, la nature brute et Miles Davis, vous êtes plutôt dans la famille Ailleurs.
Alors, ailleurs, par définition, on se situe moins bien.
Dans cette société qui ne nous propose pas de grands projets, s'évader le plus loin possible dans une passion personnelle.
Voilà, on est à mi-parcours, on est au 30 octobre 1985. C'est une émission qui s'appelle F comme français sur la 2, une émission de Pascal Brugnot et Bernard Boutier qui ont tenté la gageure de visualiser la diversité de la population française en même temps que la technique du sondage. Et pour cela, ils ont fait appel à un sociologue professionnel, Bernard Catla du Centre de communication avancée d'Avas, qui a dégagé à partir d'enquêtes 5 grandes familles de Français et 5 styles de vie. Et donc, au cours de cette émission, en choisissant des styles de vie, comme on vient de l'entendre, eh bien, on pouvait, à la fin de l'émission, comme dans d'autres, on pouvait créer une entreprise, là, on pouvait savoir qui on était dans cette société française.
Troisième solution.
Vous avez choisi Terminator, le film fantastique, le look punk, le hamburger, les vacances sportives, Nina Hagen, le rock. Vous faites partie de la famille Plaisir.
Alors, Plaisir, c'est plutôt sympathique, on peut en savoir davantage.
C'est sympathique, certes. Le slogan pourrait être pour eux, s'éclater, aujourd'hui, tout de suite, malgré la crise, par tous les moyens. Système D.
Si vous avez choisi La Chèvre, le film drôle bien français, les vêtements pratiques, la cuisine mijotée, le camping en famille et la chanson française, vous êtes alors dans la famille Confort.
Alors, confort, ça dit bien ce que ça veut dire, j'imagine.
Oui, priorité à s'installer douillettement, confortablement, entre soi et y rester.
Et si vous avez choisi les films romantiques, le costume, style BCBG, le gigot haricot vert, les vacances culturelles et la musique classique, vous appartenez à la famille Tradition.
On pourrait les qualifier de personnes qui cherchent leurs racines, le retour aux sources, les grands principes, les valeurs.
Ouais, c'est la grande mythologie des sociostyles dont Bernard Catla est l'inventeur et le héros à cette époque-là. Il y a beaucoup d'autres sociologues, alors vraiment, il faut mettre des guillemets autour de ce mot quand on l'emploie dans ce sens-là. À cette époque-là, hein, il y a effectivement la COFREMCA, le CREDOC, tout un ensemble d'organismes, parfois d'ailleurs semi-publics, où des experts d'un genre nouveau cartographient comme ça, de façon exhaustive, la société française en fonction des habitudes de consommation, des styles de vie et des rapports à l'argent, quand même, principalement. C'est pour ça que on pourrait dire que ça a toujours existé, la volonté de cartographier, de créer des catégories à l'intérieur de laquelle on pourra faire rentrer toute la population. C'est une façon, un mode de contrôle social aussi ancien finalement que la démocratie bourgeoise. Mais là, c'est d'un genre nouveau parce que finalement, c'est plus du tout des logiques de classe. Ce qu'affirment ces sociostyles, c'est que les logiques de classe n'existent plus, que ce qui est déterminant désormais, c'est un certain rapport à l'argent, le goût de certaines couleurs, une certaine psychologie qui fait qu'on est soit des moutonniers, haute catégorie de Catla, soit des inventifs, des audacieux, des casse-cou. Vous voyez d'ailleurs, on est entre la psychologie et la BD au niveau des catégories choisies. Et l'effet de cette vogue-là, reprise en cœur par tous les magazines de l'époque, c'est que même si ça a très peu de validité scientifique, on le sait très bien, ça va faire qu'au terme de la décennie, les marqueurs de classe auront en grande partie disparu des discours médiatiques ou intellectuels, puisqu'ils auront été remplacés par ces choses très volatiles que sont effectivement le goût pour certains yaourts ou le goût pour... Et il y a aussi une raison beaucoup plus concrète à tout ça, qui est que c'est l'époque effectivement du boom d'un certain capitalisme français, et pour optimiser le marketing, c'est-à-dire tout simplement pour savoir quelle musique sera la plus efficace à faire passer dans le supermarché pour que les gens consomment, là, il faut faire des enquêtes permanentes, il faut faire des groupes de consommateurs, il faut les cartographier. Donc, l'objectif plus direct, c'est ça. Mais l'objectif, moi, il me semble, à terme, c'est quand même effacement des marqueurs de classe et catégorisation exhaustive de toute la population consommatrice française, quoi.
Vive la sociologie de marketing.
Ouais, en tout cas, le marketing a tué la sociologie. Oui.
Encore une fois, François Cusset, on a évoqué quelques figures rares, vous le disiez, avec Serge Halimi, de résistants à cette époque, hautement idéologique. Hein, c'est une époque qui dit c'est la mort des idéologies et qui est en vérité hautement idéologique. Que fait Bourdieu à ce moment-là, puisqu'on est en train de parler de sociologie? Que dit-il? Qu'écrit-il?
Bourdieu est dans une phase de grande productivité universitaire. Il n'est pas du tout encore dans sa phase militante des années 90. Hein. Il a un laboratoire, une équipe de chercheurs. Il écrit des livres importants. Il est très isolé. Les actes de la recherche en sciences sociales, sa revue est l'un des rares lieux critiques, vraiment critiques de l'époque, hein, parce qu'on peut y lire, alors là, si on veut chercher des dossiers critiques sur tout ça au présent, allez lire les actes de la recherche, mais enfin malheureusement pas grand monde les lisait. Mais il y a un problème quand même dans le fait que le discours sociologique critique de Bourdieu est d'une part très isolé, assez peu compréhensible et audible, assez peu opératoire, je veux dire, pour penser à une action politique de résistance. On pourrait presque lui faire le reproche même d'inverser finalement l'économie générale qui domine. Il l'inverse en une sorte de contre-économie des signes, contre-économie symbolique, qui est sans doute très juste. Je veux dire, il a à peu près tout compris ce qui se passe à cette époque-là, mais très incapacitante. Parce que si on lit Bourdieu à l'époque, ça donne moins envie de sortir dans la rue que de se tirer une balle. Enfin, on passe du pessimisme au désespoir. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, l'évolution de Bourdieu est importante, parce que le fait qu'il passe au militantisme dans la décennie suivante, c'est aussi que la question de l'action politique va surgir comme un complément nécessaire. On ne peut pas simplement critiquer et cartographier tout ça, quoi.
Serge Halimi ?
Il faut tout de même rappeler qu'à l'époque, il y avait déjà le monde diplomatique qui était mensuel.
Et pas le plan B,
non,
ça
pas
manquait.
Le plan B, mais moi, j'étais donc étudiant, je lisais le monde diplomatique, pas acte de la recherche en sciences sociales, et c'était un journal qui servait déjà, en quelque sorte, de môle de résistance à cette idéologie libérale. Quant à Bourdieu, il est vrai que c'est plutôt à partir des années 1990 que, comme il l'a expliqué lui-même, il s'est senti obligé d'intervenir, d'entrer plus franchement dans l'arène, en voyant à quel point des gens qui n'avaient aucune compétence scientifique d'aucun ordre prétendaient dire leur vérité sur un monde social qu'ils ne connaissaient pas.
Et voici le bébé de chaud pour les Les RPR craquent et les fachos, ce sont tous des rigolos.
Cher, venaient ensuite Charles Pasqua et Robert Pandreau. Ambiance plutôt bon enfant avec la presse. Une ambiance contrastant avec l'atmosphère qui régnait dans le salon Murat. À l'ordre du jour, un seul point, un seul, l'organisation des travaux du Conseil des ministres. Finalement, ce premier conseil de l'époque de la cohabitation n'aura duré que 25 minutes. À sa sortie, Jacques Chirac a esquissé un sourire, mais il n'a fait aucune déclaration. Tous les ministres, sans exception d'ailleurs, sont restés muets.
Est-ce que c'est un moment clé, ça aussi, François Cusset?
D'abord, c'est le début de la cohabitation, cette expérience inédite dans l'histoire politique française, avec la victoire de la droite législative, et donc un gouvernement Chirac sous présidence Mitterrand. Au début, avoir l'ambiance de l'année, avoir l'ambiance des élections d'ailleurs, et le programme de la gauche qu'on a un peu de mal à distinguer du programme libéral de la droite, au début on pense effectivement convergence quand même là aussi des programmes politiques et des idées de fond, et que ça devrait donc se passer à peu près bien. Et puis sur en juillet, Mitterrand refuse de signer les ordonnances donc de privatisation ou dénationalisation, d'où cette crise effectivement presque de régime, hein, parce que là, Chirac fera usage du 49-3 et passera outre, mais voilà, il y a tension forte.
La privatisation devant les députés, pas de surprise, 49-3 et motion de censure. Au menu de l'Assemblée nationale, le projet sera adopté la semaine prochaine. Hino remporte l'étape contre la montre, mais Greg LeMond bétonne son maillot jaune au terme de cette 20e étape.
C'est intéressant, je ne sais pas trop quelle lecture en faire. La lecture un peu cynique, c'est de dire que génie politique quand même sans égal de Mitterrand, qui va accumuler entre 86 et 88 ce type de tension, à intervalles quand même pas trop réguliers pour éviter que le pays soit ingérable et qu'on l'en accuse, mais suffisamment pour en sortir vainqueur. C'est-à-dire pour incarner finalement l'unité nationale, là où son Premier ministre incarne l'idéologie de droite, une faction politique et une stratégie qui s'avérera payante, quoi.
Serge Limy.
Je crois que quand Jacques Chirac revient au pouvoir en 1986, en mars 1986, le retour de la droite indique deux directions simultanées, qui est la direction autoritaire, laquelle est symbolisée par l'arrivée de Pasqua au ministère de l'Intérieur, et la direction ultralibérale, laquelle est symbolisée par la présence d'Édouard Balladur au ministère de l'Économie et des Finances. Et pendant cette période de deux ans, au cours de laquelle Jacques Chirac espère apparaître comme le prochain candidat à la présidence de la République et être élu président de la République, deux accros surgissent, deux gros accros. Le premier, c'est ce mouvement lycéen de décembre 1986, qui montre que cette politique ultra-sécuritaire, elle suscite des oppositions et un grand mécontentement dans le pays. Et le deuxième gros accro, c'est celui qui interviendra un peu moins d'un an plus tard, avec l'effondrement des cours à la bourse de New York, Wall Street qui perd 22%, ce qui fracasse aussitôt le rêve du capitalisme populaire où chacun s'enrichit, etc., puisque Wall Street perd 22% le 19 octobre 1987. Et je crois que ces deux gros accros vont considérablement handicaper Chirac lors de l'élection présidentielle qui suivra et contribuer à créer l'espace un peu centriste, à la fois libéral mais pas trop, à la fois autoritaire mais pas trop, France unie en quelque sorte, qui permettra à François Mitterrand d'être réélu.
En politique, le Parlement tient toujours la vedette. Après la bataille de l'ordonnance sur la privatisation, le projet de loi est maintenant aux mains des députés.
Tout a été réglé en moins d'une heure. Seuls se sont exprimés les ministres concernés et le rapporteur général du texte, ce qui suscita la protestation du groupe communiste.
Le gouvernement s'apprête à faire adopter, sans vote, le texte de dénationalisation de 65 entreprises du secteur public, mis au point hier au Conseil des ministres, grâce à la procédure autoritaire du 49-3. C'est une parodie de délibération, une censure de la représentation nationale.
Un peu de sérénité et sachons distinguer l'essentiel de l'accessoire. La voie législative, nous l'empruntons, car le pays nous a donné un mandat qu'il nous faut, sans faiblesse, ni retard, remplir. J'ai l'honneur d'engager la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le projet de loi dont vous êtes aujourd'hui saisi.
Serge Halimi.
À mon sens, il y a deux surprises historiques, entre guillemets. D'une part, que la droite rompe aussi franchement avec sa tradition colbertiste, car après tout, privatiser ne faisait pas partie de ses habitudes. Elle avait été au pouvoir entre 1958 et 1981, et elle n'avait pas privatisé, et sans doute n'avait-elle pas privatisé, parce qu'un certain nombre des entreprises nationalisées l'avaient été du temps du général de Gaulle à la Libération. Donc là, on a une droite qui est vraiment, pour le coup, riganienne, assez américaine, très libérale. Et la surprise symétrique, c'est bien sûr que quand la gauche gagnera à nouveau les élections deux ans plus tard, elle ne renationalisera pas ce que la droite a privatisé, puisque François Mitterrand expliquera à l'époque que mon mouvement naturel avait été de récupérer les sociétés dénationalisées depuis deux ans. Si je ne l'ai pas fait, c'est par souci de psychologie des Français et de paix civile. Donc là, on a une droite qui, elle, n'hésite pas à mettre en œuvre son programme et une gauche qui recule devant la remise en cause des contre-réformes libérales mises en œuvre par la droite.
C'est vrai que la lecture de fond, c'est aussi que du coup, il y a convergence de la droite et de la gauche là-dessus, parce que cette droite un peu nouvelle qui apparaît sur les murs de France pendant la campagne des législatives de 86, je ne sais pas si vous vous souvenez, où on voit, ils sont tous en bras de chemise, la cravate au vent,
oui.
Qui effectivement, c'est l'image même de l'entrepreneur, voilà, c'est vivement demain, c'est l'image plus de l'entrepreneur que de l'élu de la vieille République, quoi. Cette droite va finalement faire l'éloge du résultat principal des privatisations, qui est ce qu'elle appelle l'actionnariat populaire. Et ce discours des petits porteurs comme finalement la nouvelle figure de la démocratie française, hein, avant c'était le citoyen ou l'électeur, désormais c'est le petit actionnaire qui va s'unir.
Le petit rentier.
Voilà, le petit rentier, mais qui, voilà, dont il faut trouver une forme d'union politique générale. Ce discours sera absolument repris par la gauche qui gagnera l'initiative après, enfin en 88, et par le gouvernement Rocard. Donc là, on a convergence. Frédéric ?
Date assez importante, hein, mine de rien, tout de même, parce que les privatisations, c'est la forme la plus pure de l'économisme. L'économisme, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'il n'y a pas une activité concourant à la reproduction matérielle des hommes qui ne saurait échapper au marché. C'est le refus dogmatique qu'on puisse accepter des coûts économiques pour atteindre des objectifs qui ne le sont pas, pour poursuivre des finalités qui sont extra-économiques. Créer une soupape d'emploi sur un marché du travail tendu, aménager de manière à peu près équilibrée le territoire dans ses infrastructures de transport, je pense à la SNCF, sécuriser des installations énergétiques à risque, comme le nucléaire, EDF. Et tout ça, c'est des finalités extra-économiques dont pourtant il serait assez utile d'accepter les coûts économiques. Eh bien, c'est cela que la privatisation refuse. La privatisation envoie le message qui consiste à dire que la logique économique est hiérarchiquement supérieure au sein de toutes les logiques sociales et que toutes les logiques extra-économiques devront s'ajuster une fois réalisée la satisfaction des contraintes de la logique économique.
L'économisme passe d'abord. C'est l'économisme contre le politique.
Absolument.
Et le politique viendra après, courra derrière.
Exactement.
Définitivement.
C'est le renversement de la proposition selon laquelle l'intendance devait suivre. Non, là, l'intendance précède et c'est le reste qui s'adapte.
Première nationalisée et privatisée, Saint-Gobain. La mise en vente des actions se fera à partir du 24 novembre pour 15 jours.
Bonsoir. Âge 40 ans, profession ministre, conviction libérale, signe particulier, grand mais grand ami de François Léotard, Alain Madelin. Bonsoir et merci de faire ici ce soir votre première émission de télévision importante.
Je crois que c'est important, c'est de ne pas avoir le nez collé sur la France, c'est de regarder ce qui se passe dans le monde. Et c'est vrai que dans le monde, partout on privatise. Partout on déréglemente, partout on ouvre à la concurrence. Et je dirais qu'un pays est d'autant plus moderne, les pays qui gagnent sont les pays qui font plus confiance à l'initiative privée, aux entrepreneurs. Ce sont les pays qui font confiance aux solutions libérales où il y a le moins possible d'État.
Elle vous fascine la mort, hein ?
La mort c'est une chose, c'est l'alpha et l'oméga.
Bon, alors on se retrouve tout à l'heure pour parler de votre livre. Nous allons maintenant parler des privatisations. Le programme continue avec, à partir d'aujourd'hui, la mise sur le marché de quelques 11 millions de titres du groupe Havas. C'est la 7e société ainsi privatisée.
Le retour au privé, à partir de lundi, de l'un des fleurons de la finance française, le groupe Suez. Alors que la bourse bat de l'aile et que la polémique sur les noyaux durs bat, elle, son plein.
C'est une imprudence que nous ne voulons pas que le gouvernement commette dans l'intérêt de l'économie française et des Français.
Alors à ces propos de Lionel Jospin, tout de suite la réaction de Jacques Toubon, secrétaire général du RPR.
L'entreprise d'État, c'est comme un boxeur sur le ring avec un bras attaché dans le dos. Une entreprise qui devient une entreprise comme les autres a des possibilités d'investissement, des possibilités d'action, une liberté qui lui permettent d'être véritablement concurrentielle. Alors dire menacer les épargnants, menacer le gouvernement, surtout... N'acceptez pas la privatisation de telle ou telle entreprise désormais. C'est jouer contre ces entreprises, mais c'est jouer aussi contre l'économie française. En plus, je dois dire que c'est tout simplement un procédé parfaitement déloyal.
This is a journey into sound.
Décembre 1986, réplique.
Réplique. Alain Finkielkraut. Le dernier numéro de la revue Pouvoir, paru il y a quelques semaines, est consacré à mai 1968. On constate, à le lire, que les divergences sur la nature, sur le sens de ces événements, se sont déplacées, qu'elles n'opposent plus les révolutionnaires aux conservateurs, les utopistes aux réalistes, les libertaires aux partisans de l'ordre et de la tradition, mais qu'elles restent cependant toujours aussi vives. Les uns, tels Luc Ferry, défendent l'idée que mai 68 est un mouvement individualiste et qui a réussi. Les autres, tels Cornelius Castoriadis, affirment, je cite les premières lignes même de son article, « L'interprétation de mai 1968 en termes de préparation ou d'accélération de l'individualisme contemporain constitue une des tentatives les plus extrêmes que je connaisse de réécrire une histoire que la plupart d'entre nous avons vécue, d'altérer le sens des événements alors qu'ils sont encore, si je peux dire, presque chauds. »
Discussion donc sur la pensée 68, c'est surtout Luc Ferry qui va se faire remarquer sur cette voie-là, sur cette sorte d'acharnement à interpréter 68 à sa façon.
Oui, alors effectivement, c'est l'événement, le petit best-seller de l'année 86, la pensée 68 de Ferry et Renaud, avec deux dimensions du livre, qui c'est à la fois effectivement une attaque ad hominem contre toute la grande génération philosophique, critique précédente, qui serait coupable de tous les maux et d'avoir fait de la France un pays ingouvernable, égoïste et individualiste. Mais il y a surtout, c'est ça qui est intéressant, cette idée-là qui est la relecture de 1968 à la lumière des conséquences bien tardives du phénomène que sont ces années 80, libérales, individualistes, entrepreneuriales. Et effectivement, comme le dit Castoriadis, c'est délirant, c'est pro-